RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Poncet, cheminot, Marianne Soubré, avocate, le camp du bien. Nous sommes avec Stéphane Manigold, restaurateur, le camp des hors-sol, le camp du mal aujourd'hui, parce que les gens qui ont réussi, ils sont montrés du doigt.
En parlant de hors-sol, je tiens à souhaiter un très joyeux anniversaire à Jean-Luc Mélenchon.
Ah, c'est aujourd'hui.
Oui, c'est aujourd'hui son anniversaire.
Ah bah tiens, mais j'espère qu'il reviendra nous voir à la rentrée.
Un peu
ah
oui, plus, la semaine prochaine. Vous étiez né le même jour, dis donc.
Oui, la semaine prochaine, sont les journées de rentrée de la France Insoumise. On va suivre les débats qui seront organisés avec trois membres du gouvernement, avec Rachida Dati aussi.
Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa, Clément Beaune, Olivia Grégoire, Rachida Dati. On y va pour le GG7 et match, on attend avec impatience.
RMC.
GG 7 et match.
Pour ceux qui sont régulièrement sur les réseaux sociaux, qui sont notamment passionnés d'aviation, vous avez remarqué que depuis quelques années, on peut suivre, grâce à des sites comme Flight Radar ou Flight Tracking, on peut suivre les trajets en temps réel des avions sur la carte du monde. On voit leur parcours, s'ils font des escales, s'ils se posent de manière impromptue et autres. Désormais, ce flight tracking, qui consiste donc à suivre en temps réel les déplacements des avions de ligne, même des avions présidentiels, on l'a vu avec Nancy Pelosi, son voyage à Taïwan, et maintenant on suit les jets privés à partir des signaux. Et donc aujourd'hui, des sites, les relais, des sites qui sont proches de la mouvance écologique, pour dire, on va montrer les excès des milliardaires, mais des milliardaires français, américains, internationaux, des milliardaires dans le business, des milliardaires du rock, du rap. C'est ainsi que se sont fait épingler notamment Drake, Taylor Swift, Kylie Jenner, Jay-Z, la Miss France aussi, Diane Lair, et puis les jets des grands patrons des sociétés privées, Bouygues, Bolloré, Arnaud, et notamment, ont été pointés du doigt, 53 vols qui ont émis 520 tonnes de CO2, bilan alarmant, c'est ce que dit le tweet iFly Bernard, qui suit les voyages notamment de plusieurs industriels. Et Bernard, notamment
de Bernard. Bernard,
de Bernard Arnault, effectivement. Alors, montrer les trajets des jets privés des milliardaires, est-ce que c'est bien de le faire parce que ça les responsabilise, c'est pour la bonne cause écologique, ou au contraire, c'est une véritable traque anti-riche? 32-16, c'est le GG7 et match. L'équipe Poncet Soubré face à Stéphane Manigold, la Timouille a la parole, Marianne Soubré. La Timouille, il faut le faire.
Alors, on vit dans un monde où on a le porte-parole du gouvernement qui est venu nous rappeler qu'il fallait qu'on éteigne l'électricité, qu'on coupe l'eau quand on se lave les dents. Nous, on doit être absolument raisonnable, on doit faire attention à toutes nos dépenses. Mais par contre, pendant ce temps-là, tous les millionnaires et milliardaires de la planète, on leur demande rien et il n'y a aucune obligation qui pèse sur eux. Donc évidemment, je suis pour qu'on suive le trajet des jets. Pour cette raison-là, la première, c'est qu'on fait peser sur nous des obligations qu'on ne fait pas peser sur eux, et je trouve que c'est totalement injuste. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a rien d'illégal à faire ça, puisque les trajets sont publics pour des raisons de sécurité, et en plus, ça n'est pas exactement Bernard Arnault qu'on va suivre, mais c'est parce qu'il faut savoir quand même que tous ces milliardaires, en fait, c'est pas eux qui payent les jets, c'est leur société en réalité. Donc en fait, ce qu'on suit, c'est des avions de société. Et ces sociétés-là, elles ont des comptes à rendre également sur la façon dont elles utilisent et la façon dont elles polluent la planète, parce que si nous, on doit le faire, ils doivent le faire en premier lieu aussi.
La plaidoirie de Marianne Soubré. Stéphane Manigold.
On est encore sur un sujet où on va être dans de grosses caricatures. Aucune obligation des riches. Rendez-vous compte, ils ne respectent rien. Ils sont hors la loi. Ils sont tout ça. Bon, ça c'est franchement, Marianne, vraiment, c'est.
Pas dit qu'ils étaient hors la loi. À quel moment j'ai dit qu'ils étaient hors la loi? Je l'ai pas dit.
Non, mais ils ont aucune obligation. Donc
ils n'ont pas d'obligation.
Si t'as des obligations, ne serait-ce que citoyenne, déjà, je le rappelle.
Mais
je vais le rappeler.
Il n'y a pas de limite dans l'utilisation de leur jet privé. Il faut rien d'illégal. C'est bien ça le problème.
Ah, on va parler d'égalité justement.
Ils font rien d'illégal.
C'est pas à toi que je vais apprendre que l'atteinte à la vie privée, que de surveiller des déplacements,
Et c'est pas une atteinte à la vie privée.
C'est
un avion de société, justement. Alors là, je t'invite à lire la tribune qui est parue aujourd'hui dans Le Monde. Ça n'est pas une atteinte à la vie privée.
On va revenir sur le sujet de base. Moi, je distingue le jet privé de loisir, entre guillemets, celui qui effectivement crame du kérosène pour pas grand chose. Il a qu'à prendre effectivement le train ou l'avion classique. Et puis, le voyage professionnel. Et oui, quand t'es patron et que t'as plus de 100 000 salariés, tu peux pas être ce que François Hollande avait appelé, et d'ailleurs on en est très vite revenu, le président normal, où tu fais la queue au péage, où tu fais la queue comme tout le monde. Ben non, moi je suis désolé, un chef d'entreprise ou un président de la République, c'est pas un homme normal, c'est quelqu'un qui a de lourdes responsabilités et il peut pas passer 3 heures au péage de Saint-Arnoux à faire la queue.
Et en tout cas, on l'a pas élu pour ça. Londres-Est à Londres-Ouest en jet, c'est normal. Parce que ça a
Il faudrait déjà avoir les explications. Ensuite,
concernant les
obligations, tu tapes sur Bernard Arnault. Moi, je suis allé regarder les chiffres de 2018, parce qu'après, il y a le Covid, donc je n'ai pas voulu regarder ces chiffres. Mais je vais parler des chiffres de 2018 de Bernard Arnault. 13 500 personnes embauchées en France, dont 4 000 en CDI. Troisième rang des recruteurs, derrière McDonald's. McDonald's, c'est facile d'être le premier, puisque c'est que des emplois précaires qui sont renouvelés régulièrement. Et derrière la SNCF, puisque tu es de la SNCF. Mais devant les grandes entreprises telles que BNP, NNG, etc., c'est 1,2 milliard d'impôts sur les sociétés.
Attends.
1 milliard 2 d'impôts sur les sociétés. Ça lui donne des responsabilités.
C'est pas lui qui les paye de sa poche. Est-ce que tu sais que c'est la société qui les paye?
Objectif.
C'est pas, heureusement pour lui, c'est pas Bernard Arnault qui va payer de sa poche.
Et arrêtons d'être dans le sophisme. Vous imaginez un type comme Bernard Arnault menacé de mort, critiqué, prendre le métro comme tout le monde.
Prends une voiture.
Il y a des choses que tu peux pas faire en voiture.
Ça pollue moins qu'un jet, hein, pardonnez-moi.
Bruno Poncet.
L'avion de ligne.
Au-delà de Bernard Arnault, parce que là, j'étais en train à la limite de pleurer en écoutant Stéphane.
Mets-toi bien devant le micro.
Ouais. Moi, il y a un sujet, c'est que on voit des. Il y a un sujet, c'est que on voit quand même une aberration. Moi, par exemple, à l'heure, tu parlais de Taylor Swift, 150 vols depuis le début de l'année. On est au 230e jour de l'année. Elle a déjà fait 150 vols avec son jet privé.
Pour faire quoi?
Je sais pas, à un moment donné, Kylie Jenner, elle a été attrapée, parce que je crois qu'elle a fait 20 ou 30
elle
kilomètres.
Quoi, toutes ces personnes que tu cites?
Non, mais là, je viens de te dire 20, 30 kilomètres en jet.
Star du rock. Voilà, mais... star du rock. Bah, c'est quoi l'utilité d'une star du rock de prendre un jet privé? Excuse-moi.
Mais non, mais elle te donnera la même que
le grand patron. Moi, je le défends.
Le patron, il est politique. Que Bruno finisse.
Qui a une vraie utilité pour la société.
Avec les patrons.
Mais
c'est pas une critique vers des patrons. Mais Bernard Arnault, c'est pas parce qu'il a généré 1,2 milliard ou qu'il a embauché 10 000 personnes qu'il a le droit de polluer et qu'il a le droit de prendre son avion pour aller faire un tour à Saint-Tropez. Ou à un moment donné stop. Moi je pense qu'il faut à un moment donné nous tu vois là à l'heure actuelle on dit aux gens les plus précaires, on dit que la rentrée ça va être compliqué au niveau de l'économie, que ça va être compliqué au niveau des ressources naturelles et qu'il va falloir baisser le chauffage et que si que ça, mais parce que toi tu es riche, tu as de l'argent, et ben non. C'est open bar parce que t'as pas ce problème.
Mais là je vais dire un truc les amis,
à un moment donné Stéphane le débat.
Pardon, j'ai arrêté, vas-y continue. Voilà.
Le vrai sujet il est là, il est qu'à un moment donné ces gens, et moi je pense réellement que ces gens, et il y a d'autres problèmes aussi sur leur fiscalité, hein, on est bien d'accord sur la fiscalité de ces gens-là aujourd'hui, qui à un moment donné vont aller dans d'autres pays pour je pense qu'eux doivent être les premiers solidaires de la société française, de ceux qui peinent, qui sont mal, et eux doivent être solidaires. Ils ne le sont pas, ils ne montrent pas l'exemple, et on pourrait même parler de Castex qui prend un avion privé.
Je vais te couper parce qu'il faut être factuel, je suis désolé. Quand tu dis ils ne payent pas la solidarité, etc., je rappelle quand même un chiffre très clair, probant, que n'importe qui peut trouver, puisque c'est une boîte cotée, le groupe LVMH. La France représente 10% des ventes dans le monde et ça pèse 50% de leurs impôts.
Donc
faut arrêter d'être dans
le sujet.
Soit on est dans les caricatures, et franchement ça m'intéresse pas. Quand tu dis ils payent pas 10% des ventes, mais c'est énorme. Mais moi je lui dis merci, tu payes 1,2 milliard, mais 1,2 milliard ça finance.
Ça te permet pas d'aller polluer le monde.
Bien sûr, on est d'accord. Mais cette prise de conscience.
On n'est pas d'accord.
La prise de conscience.
Toi, tu trouves ça normal.
Et alors, je vais vous dire un truc, il y en a deux qui doivent se marrer s'ils nous écoutent. C'est Jinping, là, le chinois, et Poutine, le russe. Parce qu'alors, eux, ils en ont rien à cirer. À Moscou, mais le gaz, il est en abondance. En plein hiver, il fait 28 degrés dans les appartements. Ils ont tellement chaud qu'ils ouvrent les fenêtres. Donc,
mais
l'écologie, le rapport, c'est quoi?
Non, mais alors,
c'est que demain, vous voulez quoi? L'écologie, là, on est en train de faire de l'écologie de salon. Moi, je suis désolé. On impose sur le dos de nos entreprises, notamment en Europe, des règles en matière d'énergie et de contraintes que ces pays-là, dont on achète des t-shirts, etc., ne respectent pas.
Avec Marianne Soubré.
Ce que j'aimerais, c'est qu'on recadre un peu le sujet. Le sujet n'est pas de savoir s'il paye des impôts ou pas, j'ai
mais
envie
de
dire.
Il n'a pas de centrale à charbon,
je parle. Attends, Marianne.
Le sujet n'est pas de savoir si ces entreprises payent des impôts ou pas, et tant mieux si elles en payent. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas de savoir si d'autres, qui sont des dictateurs, comme notamment Poutine, feraient, si tu veux, des choses qui seraient pas écologiques, etc. Le sujet est de savoir si ces gens-là n'ont pas la même responsabilité individuelle que nous, tout simplement.
Attends.
Et il est évident que quand tu utilises un jet privé, personne ne les empêche de prendre un avion de ligne. Si tu parles de questions de sécurité, tu sais, il y a des classes à faire, il y a des business où ils peuvent aller, où ils seront tranquilles entre eux et il n'y aura pas de souci par rapport à ça. L'avion de ligne fera toujours beaucoup moins en bilan carbone qu'un jet privé parce qu'il est plein, cet avion.
Les vols annulés, les grèves...
Non, mais arrête,
attends, mais tu vois qu'un chef d'entreprise
non, mais
peut faire la queue et puis à un moment dire...
Mal à mon rendez-vous
Stéphane,
parce qu'il y a grève.
Stéphane, tu m'as pas laissé finir. Quand
Marianne.
On voit que dans les déplacements, tu as notamment, je sais plus si c'est, je crois que c'est Bernard Arnault, mais tu as notamment un déplacement de Londres-Est à Londres-Ouest en jet privé.
Et Monsieur Bolloré.
Là, pardonne, ou Bolloré, peu importe, c'est l'un ou l'autre, tu vois, parce que c'est un peu là, de ce côté-là, je pense qu'on peut les mettre à plan d'égalité. Quand tu vois ça, tu te dis à un moment, je veux dire, c'est même pas un problème. Là, c'est que quand on parlait tout à l'heure des années 80-90, ces années fric où justement on dépensait à tout va, mais là j'ai envie de dire, ces gens-là sont restés dans ces années fric. Aujourd'hui, on doit tous être un peu, un minimum décroissant, et eux, ils le sont pas.
Oui.
Voilà.
Alors, oui,
mais quand tu produis en Chine avec des centrales à charbon, excuse-moi, on peut parler d'écologie. Il faut combattre les particules. L'écologie, tu sais, les petites particules qui trouent la couche d'ozone et qui nous donnent des cancers, eux, ils connaissent pas de frontières. C'est pas l'histoire de Tchernobyl qui s'arrête au milieu du Rhin.
On parle pas des Chinois, là. On parle des jets privés.
Non, on parle d'écologie. Parce que votre axe, c'est l'écologie. Et là, on fait de l'écologie de salon.
Je voudrais revenir à un point, par exemple. Poser la question. Franchement, Bruno, toi, est-ce que tu es pour qu'on le jet privé, on n'en a pas besoin?
Non.
Voilà. Sauf que
même
le jet privé, c'est une économie.
Mais c'est une économie de quoi?
Attends. Le jet privé, c'est l'économie. Bombardier, Dassault,
l'aviation, c'est
ça
français,
construit.
Hein.
On est numéro un mondial avec les jets privés. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui travaillent dans ces jets.
On a un vrai problème avec nos champions. Il faut les décapiter.
C'est une vraie économie.
Oui, mais c'est une économie. Mais
il y a des pilotes.
Bombardier ne fait pas que des jets privés.
Non, bien sûr.
Donc dans ce cas-là, il pourra peut-être se recentrer plus sur les trains.
Non, mais c'est vous qui décidez finalement.
Mais c'est pas ça.
Non, attends. Non, je pose puisqu'il me dit non, on n'a pas besoin des jets privés. Donc on décide de se passer des jets privés. Alors, c'est quoi la bonne escient? Qui décide que c'est à bon escient?
C'est pas la question. La question de départ, c'est de dire pourquoi tu
peux. Alors, je vais te dire bon escient. Moi, l'emploi du temps de Bernard Arnault, numéro un mondial du luxe, c'est de dire je pars à 8h, à 13h, même pas à 13h, à 11h, il faut que je sois à Londres. 2h après mon rendez-vous, il faut que je sois à Singapour.
Mais parce qu'il est implanté dans le monde entier.
Il n'a pas de collaborateur. Il doit
mais pourquoi il ne le fait pas lui-même?
Il ne peut pas faire en visio, il n'a pas de collaborateur.
Si on vous colle les manettes, vous décidez des emplois du temps des gens, vous décidez d'arrêter tel secteur de l'économie.
Non, pas du tout.
Bruno, il me dit lui-même, on n'a pas besoin des jets privés. Toi, tu dis, monsieur Arnaud, non, vous faites pas 5 voyages par jour, vous envoyez des collaborateurs, c'est moi qui décide. C'est extraordinaire.
Non.
Avec
non.
vous,
non.
ce sera
non.
l'économie dirigée,
Alain.
Dirigiste. Avec ça, c'est le camp du bien. Ça, c'est le camp du mal.
Alain.
Et on enlève.
Alain.
C'est extraordinaire.
On va être clair. J'ai une façon de vivre, etc. Où,
t'as une voiture, Marianne.
Mais justement.
Mais celui qui n'a pas de voiture est pas traité de riche en disant à Marianne.
Tu peux me laisser terminer. J'ai une voiture. Et ben, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé d'utiliser moins ma voiture parce que tout d'un coup, je suis un peu responsable.
Mais tu as
demande à eux, c'est aussi de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, les utiliser moins, les utiliser à bon escient.
Exactement.
Moi, si tu veux, je dis c'est pas normal de faire non.
C'est vous qui avez
Le principe de base, c'est les faire répondre.
Marianne,
c'est mieux, c'est l'inquisition, c'est répondez.
Cher maître, je voudrais juste vous répondre sur votre argument de la voiture.
Tout à l'heure, je peux pas finir une phrase. Donc maintenant, vous allez me laisser finir. Donc à un moment, je veux dire, si tu fais ce suivi, c'est justement pour que derrière il y ait une réponse, que les mecs à la limite nous justifient de tout, parce que s'ils peuvent le justifier, mais ils pourront pas, parce qu'il y a des trucs qui sont ridicules, parce qu'ils auraient pu le faire en visio, parce qu'ils auraient pu le faire en avion de ligne. Donc en réalité, ce qu'on aimerait, c'est que les gens expliquent ce qu'ils font exactement.
Dans un instant, Nicolas et Thomas avec nous. Nicolas qui travaille justement pour un milliardaire, il est chef de cuisine et il est régulièrement dans un jet privé. Et Thomas, qui est livreur, il dit bah, si on nous demande des efforts, il faut que les efforts ils soient à tous les niveaux de la chaîne. On va regarder la consultation, là, justement, en ce qui concerne les jets privés.
Ah,
est-ce qu'aujourd'hui, la traque des milliardaires, c'est la bonne cause? Oui, c'est le camp de Marianne et de Bruno à 56%.
Ouais, mais
qui est devant.
Mais
non, mais peut-être qu'en continuant, en fin de semaine prochaine, tu vas gagner.
Stéphane Manu,
à tout de suite.
Faut annuler le débat, là. Tu t'as pris parti. L'arbitre n'a pas pris parti.
C'est ton tour. Vous êtes deux fois plus nombreux que lui. Allez, à tout de suite. La discussion continue.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Avec nos GG, on discute aujourd'hui de ce site internet, enfin plutôt de ce qui a été mis en place sur les réseaux sociaux, la traque des jets des milliardaires, des stars du rock et autres, pour montrer qu'ils polluent la planète, que ce sont des caprices de stars et de milliardaires. Nicolas va en parler avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Nicolas. Alors, quand du oui, quand du non, la traque des milliardaires, elle est justifiée, oui ou non?
Non, je pense qu'elle n'est pas justifiée. Je travaille personnellement pour un milliardaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, quand ils se déplacent, c'est aussi des stations de travail, leurs jets privés. En l'occurrence, mon patron, quand il se déplace, il est avec tous ses collaborateurs, ses directeurs financiers, tout ça, et dans
son bureau.
Travail.
Mmh. Ouais. C'est ça. Alors, votre patron, pardon, Nicolas, avant que vous continuiez, votre patron, il est français, il est...
Non, pardon. Non, il n'est pas français. Je peux pas non plus dire.
Non, d'accord. Mais donc, voilà. Il se déplace dans le monde entier.
Dans le monde entier, oui.
D'accord.
Très régulièrement.
À bord de son jet.
Oui.
Qui est son bureau, quoi, en fait, c'est ça.
Un bureau annexe, on va dire, parce que il voyage beaucoup entre le Moyen-Orient, États-Unis, un peu partout dans le monde. Il a besoin de cette station de travail entre guillemets, mais voilà, pour moi, moi par exemple, je ne suis pas l'avion de mon patron pour savoir où il est, quand est-ce qu'il rentre, parce que je suis au plus près de lui tout le temps, puisque je suis son chef de cuisine privé. Mm-hmm. Donc je suis parfois à bord du jet s'il y a besoin, mais ce sont vraiment des gens qui bossent, c'est pas des gens. Pour moi, ils peuvent pas prendre des avions de ligne, même en première classe. Ils ne pourraient pas travailler à bord de l'avion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces gens-là emploient énormément de gens, font travailler énormément d'artisans, de toutes
bien
ces choses-là.
Bien sûr, non, mais alors attendez.
Nicolas, question
bonjour,
de Marianne.
Bonjour Nicolas. Que vous soyez employé et qu'ils emploient des gens, ben c'est très bien. Et personne n'a... Mais moi, je suis pas anti-patron. Enfin, faut arrêter avec les caricatures.
Ni anti-milliardaire.
Ni anti-milliardaire, ni anti-patron. Faut arrêter avec les caricatures.
Vraiment, Bruno.
Oui, non, mais on peut très bien être d'accord sur le reste. Vous avez vu comme moi, et nous, malheureusement, nous le subissons tous, la canicule, la catastrophe qui s'est passée en Corse, etc. Donc, il y a un vrai changement climatique. Est-ce que vous avez constaté, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez pour votre patron, est-ce que vous avez constaté que, à la suite de ça, il y a eu une modification dans sa façon de vivre? Parce que c'est bien ça qu'on leur reproche. Ce qu'on leur reproche, c'est que nous adaptons tous. Nous utilisons moins notre voiture, etc., parce que c'est beaucoup plus cher et tout. Est-ce que eux ont changé de mode de vie? La réponse, moi j'attends la réponse de Nicolas, moi je te donne la réponse, je pense que non. Et je pense que c'est de pire en pire.
Alors, par exemple, il a changé plusieurs de ses bureaux pour avoir des endroits plus stratégiques et avoir moins besoin de se déplacer.
Eh ben, c'est bien.
Allez-y.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui travaille dans les énergies.
D'accord.
Donc, fossiles.
Il y a eu des vrais changements. Vous avez vu un vrai changement?
Honnêtement, oui.
Ah bah, tant mieux. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde. Mais tant mieux.
Il faut lui laisser le crédit quand même.
Je le crois, ce qu'il me dit sur son patron.
Vous parliez de Taylor Swift qui a fait 150 vols depuis le début de l'année. Là, pour moi, ça c'est néfaste.
Non, parce que Nicolas, Taylor Swift, demain... elle descend dans la rue.
Ah oui, c'est
en 20 minutes, c'est 3000 personnes autour d'elle. Et donc, elle ne peut pas prendre un train normal. Elle ne peut pas prendre un bus. Elle ne peut pas prendre un avion normal. Allez-y, Nicolas, pardon.
J'ai travaillé pour Lady Gaga de façon personnelle et c'était pareil. Elle voulait sortir dans la rue. Je lui disais non.
Tu te fais agresser.
Ah, Lady Gaga pouvait à l'époque, elle était maquillée, elle était tellement
déguisée. Mais non, mais tu peux pas. En plus, t'es fan de rock. Tu sais très bien que une star du rock, si elle met le pied sur le quai de Taylor Swift ou n'importe qui de la gare Saint-Lazare pour prendre le train en disant je prends pas mon jet, en deux minutes tu peux plus faire garantir le train.
Tu vas dans un aéroport français, tu tombes sur deux rappeurs.
Elle sera poursuivie, il y aura 500 voitures derrière.
Mais si, ce sera pareil. Regarde le bordel, t'as deux rappeurs français, Booba et Kéris, ils se retrouvent dans un aéroport.
Oui, mais ça sert à rien.
Ça
à
finit
voir.
En bordel, ça se tape sur la gueule.
Enfin, ils s'étaient donné rendez-vous pour se taper. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils s'étaient donné rendez-vous. Enfin, ils s'étaient donné rendez-vous pour se taper. Qu'est-ce que tu racontes?
Ils prenaient l'avion.
Mais non, pas du tout, il s'était donné rendez-vous là pour se cogner. Je sais même pas ce que tu racontes. Un truc, je voulais juste faire une parenthèse.
Attends, je voulais juste conclure avec Nicolas. Donc Nicolas, vous dites finalement, faut laisser tranquille les riches. Ils bossent, c'est leur bureau, ils ont leur rythme de vie, ils font ce qu'il faut aussi, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas monté la visioconférence.
J'ai l'intime conviction que ces gens-là apportent de la richesse, font travailler énormément de gens.
Mais personne n'est le contraire.
D'artisans. Et moi, on tape toujours sur les riches. Après, oui, il y a des mauvais élèves, bien sûr. Mais moi, je pars du principe que, pour moi, ces gens-là, je ne vais pas dire que c'est des exemples. Mon patron, par exemple, s'est fait tout seul, de A à Z. Il est parti de rien du tout. Maintenant, il est multimilliardaire. Il respecte un tant soit peu l'environnement et l'écologie, parce que, bien sûr, il en a conscience aussi. Il a un enfant en bas âge. Ça, il y pense aussi, mais c'est des gens qui apportent de la richesse. Donc, sans que ça soit un passe-droit, je pense que ces gens-là, ils polluent certes à chacun à leur niveau, mais il faut aussi penser à tout ce qu'ils font travailler, tout ce qu'ils rapportent.
L'un n'exclut pas l'autre, comme moi, à des gens comme toutes les
femmes des chambres, la sécurité.
Les bateaux, c'est
tout un micro.
Ne vous étouffez pas, les amis, mais l'origine de l'avion, c'est un jet privé.
C'est une économie
du luxe
français, de l'ultra-luxe français qui est.
D'accord. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Marianne Soubry.
Je voulais faire une petite parenthèse justement sur la caricature. Demander à des gens de faire attention à ce qu'ils font, ça veut pas dire vouloir les interdire, ça veut pas dire
c'est
que.
Pas la question.
Non, mais si, c'est ça, parce que la caricature, il suffit de regarder là sur Twitter les réactions. En fait, Bruno et moi, on se fait insulter d'espèces de gauchias, je vous dis, voilà.
Non, ça, c'est pas donc acceptable.
Et toi, tu te fais insulter de l'autre côté, c'est pareil. Donc, moi, j'en ai un peu assez de la façon dont les gens aujourd'hui caricaturent le moindre débat. Ce débat, il est intéressant. D'ailleurs, on est très content de l'avoir. Mais on n'est pas obligé de le caricaturer. Je ne considère pas que tu veux, si tu veux, qu'il y ait que des pauvres et d'un côté et que des milliardaires de l'autre. Mais de la même façon, il faut pas non plus dire que nous, ce qu'on veut, c'est couper la tête des milliardaires.
Bruno aussi. Marianne, elle veut simplement qu'ils soient raisonnés avec leur jet, tandis que Bruno lui veut enlever les jets et enlever les milliardaires.
Marianne,
c'est bien que tu rappelles ce débat parce que lorsqu'on s'est retrouvé autour du café tout à l'heure, on avait, avec beaucoup de sourires, avancé ce débat sans s'invectiver.
Laissez les réseaux sociaux continuer la discussion. Non, laissez les réseaux sociaux
sur les jets privés. Moi, je vais quand même revenir.
Il faut quand même.
Tu sais,
je dis laisser les réseaux sociaux.
Quand je soulignais qu'on asphyxie nos entreprises françaises et européennes, il y a un vrai déséquilibre. Et si tu veux régler ce déséquilibre écologique, commençons par mettre en place la TVA sociale.
Alors,
ras-le-bol d'avoir des produits qui viennent manufacturés d'usines à charbon qui sont d'une toxicité exceptionnelle pour la planète. Je parle de la Chine, je parle de l'Inde et je pourrais parler d'autres pays.
Ces produits faits en Chine.
Arrêtons d'acheter du chômage.
Ce sont ceux qui ont les salaires les plus bas qui les achètent aussi.
Ils achètent du chômage.
C'est pour ça qu'il n'y en a plus d'industrie du textile en France.
C'est à côté de chez eux qu'ils les fabriquent. Et il y a quelques années, sur Canal+, ils avaient fait un reportage où un jeune homme, lambda, un journaliste, avait voulu consommer français pendant un an pour être certifié avec. C'était Montebourg à l'époque, le ministre de l'économie.
Ouais, il y a longtemps, là.
Eh ben, ouais, quelques années. Eh ben, à la fin, il avait, alors, rapidement, pas de frigo, pas de télé, enfin, tous ces éléments, parce que plus rien n'était fait en France. Donc, demain, les plus pauvres, ils arrêteront peut-être d'acheter chez Amazon quand ils pourront acheter quelque chose à un prix correct qui a été fabriqué à côté de chez eux, peut-être même par eux. C'est ça l'idée. Hein.
Alors, je voudrais qu'on écoute. Je remercie Nicolas de ce témoignage.
Merci Nicolas.
Merci
chef.
Ah, bah oui, c'est
parce que là, il avait pas non plus un rôle facile en expliquant cuisinier pour un milliardaire. Et il a l'air d'avoir un bon poste.
Oui.
Et
mais tant mieux, Nicolas. De Stéphane, moi, j'ai un doute.
Thomas, bonjour.
J'ai pas de jet privé, je le dis.
Thomas, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Thomas. Merci de suivre la discussion. Vous avez écouté un peu tout le monde. Vous êtes plutôt dans le camp de Stéphane ou dans le camp de Bruno et Marianne ?
Oh, plutôt dans le camp de Bruno et Marianne.
Ah. Allez-y.
Alors, déjà, pour commencer, très très vite, je trouve que donc c'est Stéphane Manigault, hein, avait plus d'arguments et était obligé d'avancer ces gens-là créaient des emplois, créaient de la richesse. Donc, quand on oppose ce genre d'argument, c'est-à-dire quelque part, c'est ils peuvent faire ce qu'ils veulent puisque ils rapportent de la richesse. Alors on va pas reprendre sur comment la richesse peut être faite, comment des fois elle est acquise alors qu'ils n'ont rien fait au départ. On va pas repartir là-dessus, ça sert à rien parce que je crois qu'à un moment donné a été dit c'est des gens qui ont réussi. Oui, bah le fils de Bernard Arnault, je sais pas ce qu'il a réussi à part être le fils de son père, mais bon, bref. C'est pas des arguments qui tiennent la route. On est vraiment dans un moment, je pense, écologiquement parlant, je pense qu'on commence à réaliser, certaines personnes commencent à réaliser, des gens qui disaient oui il fait juste chaud parce que c'est l'été, là ils commencent à se dire ouais bah il fait peut-être quand même super chaud, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, donc on va nous demander à nous de faire des efforts, de consommer moins, d'essayer de faire attention, de débrancher la box, on nous dit de débrancher la box, et il y a des gens qui prennent l'avion pour faire 30 bornes. Et ça devrait être normal parce que c'est des gens quand même. Ah bah ils ont employé des gens, ils font 10 000 emplois. Bah non, c'est pas du tout un argument valable quoi. C'est, la terre elle est pareille pour tout le monde. Ils ont pas droit de polluer 100 000 fois plus que moi parce qu'il a de l'argent. C'est pas possible. Donc là l'hiver va arriver, il va y avoir des restrictions sur le gaz ou des choses comme ça. Où peut-être des gens vont même pas pouvoir se chauffer cet été alors que des mecs font 30 bornes avec leur jet quoi. C'est moi je comprends même pas comment Stéphane peut avoir le
Thomas, la défense.
Voilà. Thomas, je vais pas citer une chanson de Jean-Jacques Goldman qui dit nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers.
Si
une fois au moins le meilleur, nous qui sommes nés, donc le petit spermatozoïde qu'on était tous. Bah, je suis désolé, les enfants de Bernard Arnault, ils n'ont pas choisi d'aller chez Bernard Arnault au Bangladesh, au Pakistan ou en France ou je ne sais où. Donc
oui,
c'est pas une tare. Thomas, je vous ai pas coupé, s'il vous plaît, j'aimerais juste vous répondre précisément. Donc vous parlez à un enfant, moi j'ai vécu sous le seuil de pauvreté, et donc vous parlez à un enfant qui s'est construit.
Oui, moi aussi j'ai connu la rue.
Mais voilà justement Thomas, donc s'il vous plaît.
Mais non mais ça c'est des arguments d'autorité.
Mais laissez-moi terminer.
Oui mais c'est des arguments d'autorité.
Thomas, je vous ai pas coupé. Donc moi ce que je réfute en fait c'est l'ancien monde, c'est cette opposition systématique depuis des siècles et des siècles entre les riches, les pauvres. Ça franchement moi j'en ai ras le bol.
Ah bah parce que vous avez pas été un paysan.
Si au début quand vous dites que le fils de Bernard Arnault il est bien né, qu'est-ce qu'il a foutu de sa vie ?
Excuse-moi.
Dans nos comportements d'achat, arrêtons effectivement d'acheter des produits. Mettons la TVA sociale en place.
Thomas,
nos emplois s'en porteront mieux, nos entreprises aussi,
oui,
et la consommation aussi.
Thomas, vous, qu'est-ce que vous faites pour la planète aujourd'hui ?
Ah, merci. Bonne question.
Quoi faire pour la planète, c'est-à-dire ?
Au quotidien, qu'est-ce que vous faites ?
C'est pas une question de piège.
Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre comportement pour la
Moi, plein de choses. Moi, j'ai un compost. Chez moi, j'ai un poêle à bois, je consomme peu d'eau. Là, j'ai pas arrosé depuis 2 mois mon jardin, c'est pas grave, il est cramé. Je consomme très très peu d'eau. Par exemple, l'eau chaude, un truc. Moi, mon eau, elle sort froide. Et ben, le temps que ça sort froid, je mets un petit pot en dessous. Et comme ça, cette eau-là, je l'utilise pour faire autre chose avec. C'est plein de petites choses comme ça. Mais la question, elle est même pas là. La question parle de gens qui polluent. C'est genre un voyage.
Thomas,
pollution de ma part, donc on peut me demander.
Bien sûr, Thomas, parce que vous avez commencé votre propos en disant on nous demande de faire des gestes, donc c'était simplement comme aujourd'hui, cela nous concerne tous.
Oui.
Et si on montre du doigt les riches et leurs jets pour faire 30 bornes, on essaie de regarder nous aussi
Alain
au
et
quotidien,
Thomas, vous savez,
ce que l'on fait. Voilà, c'est tout. Et il n'y avait pas d'inquisition de ma part, mon cher Thomas. C'était juste pour savoir. pour savoir si je vous envoyais des gens vous casser les genoux ou pas, quoi. C'est en disant Thomas Drézé, regardez, en fait, il a 4 bagnoles, c'est peut-être 4 4L, mais il en a 4 quand même, quoi. Vous voyez, c'est...
L'exemple, Thomas, et je pense qu'il faut tous qu'on soit dans la mesure et arrêter de condamner des sujets pour lesquels on n'est pas concerné. Je m'explique, Marianne tout à l'heure disait, mais moi, je prends moins la voiture. Bah, très bien, le riche, il a le droit de prendre moins son jet. Pourquoi? Parce qu'on est toujours.
Mais
le
il
pauvre.
Le fait pas, le
je termine
riche.
Juste, s'il te plaît, mon propos aussi. On est tous le riche de quelqu'un, le pauvre de l'autre. Et
absolument.
Toi, quand tu as la chance d'avoir une voiture, je rappelle qu'à Paris, 52, plus de 52% des Parisiens
n'ont pas
de voiture.
Surtout.
Par choix
ils
ou par
ils en ont pas
veut.
Besoin.
Mais
moi, j'en ai besoin parce que je fais banlieue-banlieue.
Donc, est-ce qu'on doit te traquer, toi aussi, demain, parce que tu prends ta voiture, parce que t'es une vilaine, parce que ça consomme de l'énergie. Ouais, et voilà.
Merci.
Non, mais c'est pareil.
Mot de la fin, Bruno, si tu veux.
Non, mais Stéphane est démago. La voiture de Barbara consommera jamais autant
que celle de Marianne.
De Marianne.
Celle de Barbara, encore moins, parce qu'elle est électrique.
Non, le sujet, c'est surtout, la question était, est-ce que de les traquer, c'est pas de les traquer pour leur dire on va mettre la tête sur une pique. C'est de leur dire on les traque parce qu'à un moment donné, soyez exemplaires, comme nous, on est obligé de faire des efforts. Soyez exemplaires aussi. Parce que c'est ça l'effort national, c'est l'effort de solidarité, c'est ça. C'est pas de leur dire ah là là, les riches ils sont tous méchants, faut tous les tuer. Moi j'en suis pas là. Je dis juste que leur richesse, ça serait bien qu'ils la partagent plus et surtout qu'ils arrêtent de moins polluer et ça serait déjà pas mal.
Alors Thomas, merci d'avoir été avec nous. Vous aurez conclu la discussion. Donc du coup, traquer les trajets des jets des milliardaires, est-ce qu'on a raison au nom de la cause écologique? Attention. Ça n'a pas bougé. 56-44, c'est le camp du oui qui gagne avec Marianne Soubré et Bruno Poncet.
Ce serait pire que ça, tu vois, pour être honnête.
On va modifier un peu les programmes. Je vous avais annoncé la maire de Pontoise pour parler avec nous des rodeaux urbains. Il se trouve qu'elle a eu ce matin une réunion en préfecture qui n'est toujours pas terminée. Le plus important, puisque c'est à sa très haute réunion, c'est qu'elle continue cette réunion.
Elle est,
et donc, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre nos sujets de discussion avec vous au 32-16.
Oh mon Dieu, c'est les GG et vous.
C'est comme on avait avant, effectivement. Et c'est, je sais que l'un des sujets qu'elle fait le plus téléphoner, c'est la grande démission. Est-ce qu'on quitte son job aujourd'hui parce que c'est un caprice, parce qu'on doit donner un sens à sa vie, parce qu'on est sous la coupe du patron ou du chef et qu'on en a marre? Je sais qu'il y a David, Bilal, Michael qui veulent intervenir. On sera du côté de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Loir-et-Cher. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Stéphane Manigold, restaurateur, Bruno Poncet, cheminot. Nous sommes avec Marianne Soubré, avocate. Petit changement de programme, on s'adapte aussi aux emplois du temps. Comme nous sommes tout le temps en direct, parfois il y a des aléas. L'aléa, c'est que nous devions être avec Madame la maire de Pontoise. Il se trouve que Madame Sophie Voineuve est en réunion à la préfecture justement sur cette question. Est en réunion à la préfecture sur cette question des rodeaux urbains, que la réunion s'est éternisée. Elle est maire, elle a un impératif de réunion. C'est normal qu'elle le respecte. Et nous, on peut s'adapter. Et on peut repartir sur une partie des discussions que l'on a eues avec vous, notamment tout à l'heure sur la grande démission entre fin 2021 et début 2022. Le nombre de démissions en France a atteint un niveau historiquement haut avec 500 000 démissions par trimestre. On en parle avec Mickaël. Bonjour Mickaël.
Bonjour à toute l'équipe.
Et on se demandait si cette grande démission, c'était le grand égoïsme aussi, ou si ça allait pas déboucher sur la grande illusion. Qu'en dites-vous, Mickaël, de Seine-et-Marne?
Alors, moi, ce que j'appelle, je pense qu'il faudrait renommer ça, parce qu'on adore copier les États-Unis. Il faudrait appeler ça la grande rupture conventionnelle ou la grande mise au pôle emploi.
Bravo.
Voilà, c'est la grande, parce que aux États-Unis, ils ont des plus gros salaires, donc ils peuvent se permettre éventuellement d'arrêter comme ça et de mettre de l'argent de côté. Et donc, pour pouvoir tenir 6 mois, 7 mois. Mais là-bas, quand ils n'ont pas d'argent ou qu'ils n'ont pas de pôle emploi, ils ont 2-3 emplois là-bas. En France, c'est pas la même chose. Moi, je donne l'exemple de ma responsable, qui a 22 ans, pas de diplôme, sans expérience. Je l'ai pris, je lui donne un salaire de 2 300 € net. Elle est chez papa-maman, donc, c'est de l'argent de poche. 2 300 € net à 22 ans. Elle m'annonce qu'elle veut démissionner. La grande démission, forcément, début juillet, au moment des vacances. Et donc, forcément, je lui tends la perche. Je lui dis, dans ce cas, tu me donneras une démission. Ah non, je vais perdre mes droits. Est-ce qu'on peut faire une rupture ou tu peux mettre au pôle emploi? Vous savez, les gens qui disent, oui, moi, j'ai claqué la porte à mon patron. Ça, c'est pour dire ça aux gens. Ce qu'ils font, les gens, c'est qu'ils font ce qu'on appelle un abandon de poste pour qu'ils soient licenciés pour abandon de poste et toucher le pôle emploi. Et même chose, il faudra qu'on m'explique comment les chiffres du chômage baissent. Mais on nous explique qu'il y a 500 000 démissionnaires qui sont partis. Ils sont où, ces gens-là?
Il y en a beaucoup qui ont changé d'emploi. En fait, c'est ça l'histoire.
Ils ont changé d'emploi?
Oui.
Non, parce que c'est des vases communicants entre ceux qui cherchent et ceux qui...
Que ce soit des avocats, que ce soit des notaires, que ce soit des vétérinaires. Quand j'en
les avocats, les notaires, je vois pas. Là, j'en sais rien. Là,
je parle de ce que j'entends. Je suis chef d'entreprise, donc
je suis avocate aussi. Je sais pas de quel recrutement vous parlez.
Moi, je parle de restauration. Moi, j'ai à peu près le même profil que Stéphane Mangold. C'est-à-dire que c'est des parents qui... j'ai des parents qui n'avaient pas d'argent, donc j'ai tout sur de mon front. J'ai grandi à 7 dans 20 mètres carrés. Mon père, il faisait la plonge dans des restaurants pour entretenir une famille de 7 personnes. Et ce que je veux dire, c'est que l'ascenseur social, il fonctionne en France. Il faut arrêter de croire qu'en ne travaillant pas beaucoup, on va être riche. Ça, c'est les gens, parce que j'entendais les histoires des jets. Il y en a plus d'un qui critique les jets, mais qui serait les premiers à sauter dedans si on leur laissait l'opportunité.
Alors, attendez, Mickaël, parce que Bruno voulait réagir à ce que vous disiez.
Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de dire que. Que les gens
le sujet
c'est de dire qu'à un moment donné t'as envie d'avoir une vie qui ressemble à une vie et pas une vie de travail. Et moi quand j'entends ça me fait quand même un peu moi ça me fait sortir les poils quand j'entends ouais alors les mecs c'est pas la grande démission, c'est un peu conventionnel. Enfin moi
la
je suis dans une boîte, je suis dans une boîte où ma boîte elle se permet, par contre à un moment donné quand t'as veut supprimer des postes d'aller chercher les mecs, de leur dire écoute je te fais une rupture conventionnelle, ou alors je te fais ci, je te fais ça, ou alors je te noue, c'est la réforme, t'as qu'on trouve que le mec il boite alors on va le virer de son boulot. Non, pendant des années les patrons ils se sont permis de virer les gens comme ils voulaient et sans avoir des fois d'excuses valables. Non mais ça c'est vrai Stéphane, tu peux ouvrir les yeux, mais moi je vis dans un monde concurrentiel où la violence des patrons
de
mais quel qu'elle soit. Non mais moi je veux dire un truc comme ça c'est comme ça que ça marche. Le vrai sujet c'est pas en même temps que les gens, les salariés, quels qu'ils soient, ils choisissent leur vie et qu'on leur impose pas des licenciements. À un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Et moi, je suis bien content qu'il y ait des ruptures conventionnelles pour des gens qui ont envie de faire autre chose. Et si vous voulez pas la signer, vous la signez pas, vous dites qu'il y a des misères.
Mickaël, merci d'avoir été avec nous, Mickaël. On va continuer la discussion, Mickaël. À pointer du doigt, je vous en prie, Mickaël, à bientôt. Pour lui, c'est son cas, c'est comme il l'a vécu dans son restaurant. On va prendre le cas de David. Bonjour, David.
Bonjour, les GG.
David du Loir-et-Cher. Pour vous aussi parler de cette grande démission, alors dites-nous.
Bah moi, écoutez, j'ai décidé, pas plus tard qu'hier, avec ma femme, de me lancer dans une nouvelle vie. Je vais me lancer dans un food truck, alors qu'en ce moment, je travaille en supermarché. Donc ça s'est fait depuis, en fait, j'y pensais depuis le Covid, parce qu'on s'est fait exploser comme pas possible en supermarché, on est en sous-effectif. Et ne serait-ce qu'hier, je suis rentré, j'avais fait 15 palettes de plus de 600 kilos.
C'est hyper crevant.
Et puis je rentre chez moi en trottinette électrique en parlant d'écolo, et quand je me suis assis dans le canapé, j'ai pas pu me relever. Mais physiquement, je pouvais pas. Donc j'ai été directement me coucher. Donc en fait, je suis au SMIC, donc je suis pas riche, mais j'ai décidé de me lancer parce que physiquement, j'arrive à 46 ans et je commence vraiment à.
Ah, vous faites de la mise en rayon, c'est ça ?
Oui, je fais que de la mise en rayon.
Oui, quand tu parles de palette.
Ouais, et dans Loir-et-Cher, de quel côté, dans quelle commune, quelle ville ?
Ah, je suis, comme dirait Périgaud, à la tour de Pise française, donc c'est Mont-Doubleau.
Mont-Doubleau.
Tout près de Vendôme.
Ah ouais, d'accord. Mais alors, du coup, David, vous allez vous lancer comment ? Vous allez faire, vous avez démissionné ? Vous allez faire une rupture conventionnelle ? Vous avez un peu de sous de côté ? Comment allez-vous faire ?
Ils acceptent pas les ruptures conventionnelles. Donc ce sera une démission, mais pour l'instant, je suis en train de voir, mettre mon projet en cours, en fait. Hein. J'y suis pour, pour pouvoir acheter le camion, pour faire une étude de marché, tout ça, enfin faire tout dans les règles. Je ne me lance pas non plus à l'aventure comme ça. Mais une fois que tout sera bien mis en place, oui, je démissionnerai.
Oui, mais justement, c'est l'exemple, il va réfléchir avant de partir. Donc, c'est vraiment pas des gens qui se lancent à l'aventure, comme tu peux le dire, ou comme à un moment, tu disais, les gens, ils y vont, ils vont toucher le chômage, etc. Ouais, là, notre auditeur, en réalité, il va d'abord réfléchir, voir, et il va être obligé de démissionner. Mais je pense qu'en démissionnant avec une création d'entreprise derrière, vous pourriez normalement toucher Pôle emploi, il va falloir vous renseigner.
C'est ce que je voulais, c'est ce que je vais indiquer à David. En fait, David, moi, je suis très fier quand des salariés quittent le monde du salariat pour sauter dans le grand bain de l'aventure qui est l'entrepreneuriat. Et si on peut
parce
vous aider.
Il est cassé, hein.
Pardon,
il est cassé.
Ouais, mais bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Twitter avec vos coordonnées. Si je peux vous aider, je le ferai volontiers.
Avec grand plaisir.
Je le ferai volontiers. Et vraiment, on n'aura pas le temps de tout détailler. Mais vous avez droit au chômage. Et moi, je suis fier que la France donne ce chômage à des jeunes entrepreneurs qui sont cassés par la vie, qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de sauter dans le grand bain et créer de la richesse pour ce pays. Bravo David, envoyez-moi en privé sur Twitter ou sur Instagram ce que vous voulez, vos coordonnées, ou si on peut récupérer un niveau, je vous aiderai avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup.
Mais vraiment.
Bonjour, merci. Merci.
Bah écoutez, bonne chance David, hein, étudiez bien tout ça. Si Stéphane Manigold peut être à vos côtés pour vous conseiller, tant mieux. Et puis qui sait, lors d'une prochaine discussion qui aura trop reconversion, peut-être qu'on aura David et qui nous dira bah ça a marché, ça a fonctionné. Ah, oui. Merci David. Et puis Bilal est avec nous depuis l'Essonne. Bonjour Bilal.
Bonjour.
Cette grande démission, vous l'avez pratiquée ou pas alors ?
Alors je l'ai pratiquée, oui, il y a 3 ans. Alors contrairement aux deux auditeurs précédents, moi c'était pas pour créer une, enfin contrairement plutôt à David, ce n'était pas pour créer une entreprise, mais pour passer du salariat au salariat. D'accord. Et dans un secteur totalement différent. Donc je suis passé des assurances aux pompes funèbres.
Ah bon ? Mais attendez.
Oh non, c'est lié en fait.
Pourquoi ce choix ?
Alors le choix, il s'est expliqué par le fait que alors en tant qu'assureur, j'ai rencontré une personne qui était déjà dans le domaine et qui lui était gérant d'entreprise et qui donc m'a inspiré, il m'a parlé de son métier, et c'est quelque chose qui m'a attisé ma curiosité et en m'y intéressant, je me suis dit qu'on n'en parlait pas beaucoup en France et que c'est un métier qui recrute. D'ailleurs, on parle des métiers qui recrutent. Bah, les pompes funèbres recrutent, hein, d'ailleurs, pas que en tant que conseiller funéraire, ce que je suis, mais en tant que chauffeur porteur, ambulancier, marbrier. Il y a vraiment du métier disponible aujourd'hui en France. Et puis, en plus, on est dans un secteur qui est partout présent géographiquement et qui est aussi très utile donc aux familles.
Ah, ça pourrait être utile, oui, vous avez
c'est-à-dire
raison.
Conseiller funéraire, Bilal.
Il reçoit les gens, voilà, il les accompagne.
C'est vous qui dites prenez tel cercueil, voilà comment ça va se passer, etc.
Je ne décide pas la place des familles, disons que je les guide. Et que je permets de faire une organisation selon donc les volontés de la personne défunte, parce qu'il y a toujours une question de volonté. Et puis aussi d'accompagner la famille qui souvent, parfois c'est la première fois, ils sont sous le choc. Et donc mon rôle n'est pas de profiter de cet état de faiblesse, notamment pour combattre les clichés de ce domaine, mais plutôt de les accompagner du début à la fin. Ah bien sûr que c'est hyper réglementé et c'est un métier hyper administratif aussi.
Et ça vous plaît ?
Ah, oui. C'est génial, bien sûr.
Il y a un côté psychologique qui est très important parce qu'effectivement, c'est lui qui va aider, accompagner. À mon avis, il faut être solide. Hein. C'est un métier où il faut être sacrément solide.
Je cherche le nom depuis tout à l'heure. Un film qui est sorti avec Didier Bourdon il y a quelques années, justement, sur les pompes funèbres.
Le bouquet final.
Bouquet final, absolument. Et il y a des thanatopracteurs qui
mais
ont
ça sont les embaumeurs, les thanatopracteurs, les embaumeurs,
qui ont participé à l'écriture de ce film. Donc vous l'avez vu peut-être, Bilal, je trouve que c'est un film extraordinaire.
Plutôt, alors c'est un film comique, mais qui est quand même réaliste et
très réaliste.
Ce qu'on peut vivre aussi. Mais disons que c'est un métier qui a du sens et qui donne d'autonomie aussi.
Vous cherchiez d'assureur, vous cherchiez un sens, enfin trouver un autre métier qui a un sens, et puis la rencontre avec le monde des pompes funèbres fait que vous avez sauté le pas. Mais vous avez refait une formation, comment ça s'est passé, Bilal ?
Alors justement, je rebondis sur ce que disait Michel avant. En fait, c'est vrai qu'en France, on a un droit du travail qui est quand même très réglementé, très fermé, et on peut pas comparer ça aux Américains ou même ce qu'on voit en Angleterre, parce que j'ai pu travailler en Angleterre, où là-bas c'est quand même beaucoup plus flexible pour changer de métier et de domaine. En France, il faut s'y prendre à l'avance, et c'est pour ça que ça demande un peu de temps, mais on va dire que j'ai totalement démissionné, c'est-à-dire que la rupture était bien évidemment refusée, donc j'ai démissionné, j'ai pris le risque de ne pas toucher de salaire pendant un certain nombre de temps, et puis j'ai dû passer une formation en effet, parce que c'est un métier qui demande une formation, en tout cas pour mon poste de conseiller funéraire, qui doit se faire dans les 1 an maximum suite à l'embauche. Et étant un métier hyper réglementé, vous devez passer une formation et c'est le risque que j'ai pris. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret parce que j'évolue dans une entreprise où donc vous pouvez évoluer très rapidement si vous mettez
vous
en avant
vos compétences. Vous gagnez bien votre vie par rapport à quand vous étiez assureur ?
Alors, je gagne mieux ma vie en étant conseiller funéraire, oui. D'accord. Tout en ayant une éthique, c'est-à-dire qu'en étant assureur, je devais vraiment,
bien sûr.
Vraiment vendre du contrat pour vendre du contrat.
Mais Bilal, autour de vous, parce que là on a eu les exemples à l'instant de Mickaël, lui qui était en tant que patron, David juste avant qui nous a expliqué que il changeait de vie parce que ce qu'il faisait en tant que mise en rayon dans les supermarchés, ça lui avait brisé le dos et c'est un peu contraint aussi qu'il va changer de vie. Mais vous, autour de vous, il y en a beaucoup qui ont démissionné dans votre entourage, qui sont passés à autre chose ou pas ?
Alors, autour de moi, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne font pas parce que c'est un risque. En France, on a ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, mais qui est très difficile à mettre en place et à appliquer. Moi, je m'y étais renseigné, je m'étais dit, on va peut-être essayer de voir si je peux pas me reconvertir d'assureur à conseil funéraire de façon, on va dire, légale.
Ouais.
Enfin, légale, ou plutôt.
Mais il y a le compte emploi formation.
Voilà.
Et je sais pas comment vous avez de.
Mais il faut obtenir le congé
jusqu'à 120 heures.
Oui, mais il faut obtenir un congé de la part de ton employeur qui va pas te.
Il faut déjà obtenir un congé et en plus je crois qu'il faut prouver d'un certain nombre d'années avant dans l'entreprise.
Ouais, c'est
et
ça,
c'était très compliqué. Donc, si vous voulez, quelqu'un comme moi qui a voulu vraiment se jeter dans le bain très rapidement, j'ai pas hésité. Je me suis dit, bon, tiens, j'ai un peu d'argent de côté, je vais me lancer dans le bain. Mais c'est quelque chose qui, dans mon entourage, en tout cas, ne se fait pas réellement parce que je trouve qu'on ne l'accompagne pas forcément bien en France.
Ou qu'on ne connaît pas forcément tous ses droits, c'est surtout ça.
Tu mets le doigt là-dessus, c'est qu'on a une méconnaissance, en fait, de l'accompagnement. La France accompagne, et c'est une fierté. Pôle emploi, c'est vachement modernisé. Il y a des choses extraordinaires qu'il propose, mais c'est méconnu. Et peut-être, pourquoi pas, inviter le patron de Pôle emploi au GG sur ces sujets.
Bilal, merci de cet exemple que vous nous avez donné,
merci
mon cher Bilal. À bientôt.
Merci.
Pour de nouvelles discussions dans les GG, dans les grandes gueules. On se retrouve lundi entre 9h et midi. Nous serons avec Stéphane sera des nôtres encore, le prof d'éco aussi, Thomas Porcher, la présidente de l'association Marseille en colère, Kauter Ben Mohamed. Et puis on reviendra de plein pied dans la rentrée politique qui s'amorce petit à petit avec Maud Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Elle était porte-parole de La République En Marche, maintenant on dit Renaissance. Et elle nous dira justement comment ça va se passer. La rentrée, ça risque d'être assez agité avec les questions d'inflation, de pouvoir d'achat, les réformes qui vont arriver, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage.
Mouvement social.
Et puis le grand débat sur l'immigration avec le droit de vote des étrangers, où là j'ai l'impression que ça risque de faire tanguer la majorité aussi. Mais la discussion et le débat, ça continue sur RMC, RMC Story. On va appeler Rémi Barré. En attendant le retour d'Estelle Denis lundi prochain, mon cher Rémi, bonjour.
Salut Alain, salut les grandes gueules. On va parler d'abord de ce mouvement de grève historique en Angleterre contre la hausse des prix, mouvement soutenu, paraît-il, par la majorité de la population là-bas. Y croyez-vous en France? Vous nous appelez comme tous les jours au 32-16. On va parler du tabac, on le savait déjà, mais c'est confirmé par une étude publiée par The Lancet. Première cause de cancer en France et dans le monde, le tabac. Faut-il augmenter drastiquement le prix des cigarettes? On parlera de ces villes françaises. Aucune ville française dans le top 10 mondial des mieux adaptées au vélo. La cohabitation automobiliste cycliste est-elle impossible en France? Ouais. Et puis les ventes de camembert. Les ventes de camembert. Notre camembert talonné par les ventes de mozzarella.
Ah
chez nous,
non,
hein, en France, sommes-nous en train
de penser tout full corps?
Et ben c'est la question. Est-ce qu'on est en train de perdre nos valeurs culinaires? Vous nous appelez au 32-16.
Vive. Allez, des bons sujets de débat avec l'ami Rémi Barré entre midi et 15h sur RMC, RMC Story. Passez un bon week-end. Soyez prudents sur la route, que vous soyez dans le sens des départs ou dans le sens des retours. Et on se dit à lundi 9h.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.